Merci Seigneur de nous donner ta parole à méditer. Oui, permets Seigneur que nous ne nous contentions pas de l'écouter. Parce que ta parole, bien sûr, elle est bonne à écouter, mais ce que tu veux surtout, c'est que nous la mettions en pratique. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit soit avec nous maintenant, pour que nous, premièrement, nous la comprenions bien, et deuxièmement, pour que notre cœur, nos cœurs, soient tournés vers toi, Seigneur, qui est le centre de toutes choses, le centre de la vie, qui est le centre de l'amour. Sois béni, Seigneur, de nous permettre dimanche après dimanche, et puis chaque jour, lorsque nous en avons envie, de lire ta parole, qui est une parole de vérité et une parole de vie. Amen.
Amen.
Voilà, je vais d'abord lire un texte bien connu. J'ai une tablette aujourd'hui, j'ai pas de feuille, et ma tablette est lisse parce que c'est du bois, c'est pas grave. Dans le livre de dans l'évangile de Luc au chapitre 13, je vais vous lire donc les versets 22 à 28. Je ne lirai pas la fin du texte parce que je ne veux pas que ce que je vais dire soit une explication de texte, que ce soit un message pour nous. Voilà. Voilà, donc Luc 13, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Mais nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Première lecture, les paroles de Jésus sont vraiment dures d'entendre. Et on se demande bien, mais qui peut être sauvé? Oh, cette question n'est pas nouvelle. Elle a toujours occupé l'esprit des hommes de tous les temps. Pour ceux qui croient à l'existence de Dieu, l'idée de ne pas être sauvé est générateur d'angoisse. Et pour atténuer cette angoisse, l'Église a jadis trouvé des subterfuges qui contrebalançaient les paroles radicales de Jésus. Elle a inventé les notions de mérite, de purgatoire, d'indulgence, un moyen de se rassurer à bon compte, en quelque sorte. Exprimé autrement, on pourrait aussi dire que ces subterfuges ont endormi les consciences et fait croire que la relation que Dieu désire avoir avec les hommes est une simple camaraderie qui ne les empêche pas de se comporter comme ils l'entendent. Souvenez-vous, il y a quelques années, Michel Polnareff chantait « On ira tous au paradis ». Alors, à quoi bon s'en faire? Je vous fais grâce de la suite des paroles iconoclastes qui prennent le contre-pied des paroles que Jésus prononce dans le texte que nous avons lu. Essayons de comprendre ce que Jésus veut nous dire dans ce texte en ce qui concerne le salut. Remarquons d'abord que Jésus allait de village en ville dans le but d'enseigner. Enseigner quoi? Le texte ne le dit pas, mais on peut être certain en lisant ce passage qu'il annonce l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, qui permet aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a aussi un détail qui mérite d'être souligné. Le premier verset nous dit que Jésus faisait route vers Jérusalem, c'est-à-dire la ville où il a été jugé, condamné, crucifié et où il est ressuscité. C'est comme si Luc voulait nous montrer que pour Jésus, il n'y avait pas de temps à perdre, puisque son séjour sur terre allait bientôt prendre fin, il voulait annoncer au plus grand nombre possible que, je cite, « le royaume de Dieu était proche et qu'il était temps pour les hommes de se repentir » Matthieu 4, 17. Il voulait qu'ils comprennent, les hommes, qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu comme on entre dans une cafétéria. J'attire maintenant votre attention sur le fait qu'à partir du troisième verset, Jésus ne parle pas d'une situation réelle, mais d'une situation hypothétique. Je relis les versets 25 à 27. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes ». Comme vous l'avez remarqué et que j'ai souligné, tous les verbes sont au futur. Cette projection dans le futur montre aux hommes que ce que l'avenir leur réserve, montre aux hommes ce que l'avenir leur réserve si leur relation avec Dieu ne change pas. Lorsqu'on tient compte de cette remarque, on se rend compte que Jésus ne condamne personne dans ce texte, comme on aurait tendance à le comprendre. Jésus ne fait qu'exhorter ses auditeurs, et il les met en garde, et il les avertit. Il y a une énorme différence entre une condamnation et un avertissement. Une condamnation met fin à toute possibilité de changement. Au contraire, un avertissement ouvre toutes les possibilités de changement, bien sûr, si on le prend au sérieux. C'est ce que Jésus veut faire comprendre aux personnes qui l'écoutent. Car remarquez que c'est une seule personne qui pose la question « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Mais que dans sa réponse, Jésus s'adresse à tous les autres. Bien sûr, c'est à nous aussi que Jésus s'adresse, même si nous vivons 20 siècles plus tard. Le verset 24 nous dit « Efforcez-vous, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Eh bien, le texte grec est beaucoup plus radical que ça. C'est pas « efforcez-vous », c'est « lutter pour entrer par la porte étroite ». Dans une lettre qu'il adresse à Timothée, Paul utilise aussi le vocabulaire de la lutte et du combat dans le même domaine. Voilà ce qu'il dit à Timothée. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » 1 Timothée 6,12. Ce texte de Paul éclaire la parole de Jésus. En effet, on pourrait se dire que si Timothée a été appelé à la vie éternelle, comme dit le texte, c'est une chose acquise, et il n'y a donc pas à lutter. Ce que Paul veut dire, c'est que la vie éternelle est promise à tout homme, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4. Mais comme Jésus, il parle d'une lutte pour accéder au salut. Combat le bon combat de la foi, combat le bon combat de la foi. Rien dans la vie n'est acquis sans combat. Que ce soit pour être président de la République, champion du monde du 100 mètres, pour acquérir un métier, ou pour être fidèle à l'enseignement de Jésus, ceux qui affirment que la vie chrétienne est facile devraient s'interroger sur la façon dont ils la vivent. Quand on parle de lutte et de combat, c'est donc qu'il y a un ou des adversaires. Quels sont-ils, ces adversaires? Eh bien, en tant que chrétien, on pense immédiatement ce que la Bible appelle l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Matthieu 13, 28. Cet ennemi-là utilise toutes les ruses possibles pour détourner les hommes de suivre Jésus et de lui obéir. Il connaît toutes nos faiblesses, quel que soit leur nom, et il cherche à nous y enfermer pour nous détourner d'une relation sincère, vraie et durable avec Christ. Car vous le savez, le péché non confessé coupe notre relation avec Dieu. Mais il y a aussi un autre ennemi, presque aussi redoutable, c'est notre nature pécheresse qui nous colle à la peau depuis notre naissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent même pas ça. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens. Frères et sœurs, inutile de nous lamenter à propos de cette nature, nous en avons tous hérité. Nous sommes tous à égalité dans ce domaine. Mais en nous envoyant son esprit, Jésus nous permet de la vaincre, cette vieille nature, en nous faisant passer par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, celle-là, qui fait de nous des êtres nouveaux capables de suivre et d'obéir à Jésus. Cela ne signifie pas que le combat contre notre vieille nature soit gagné immédiatement et définitivement, non. Cela signifie que, jour après jour, Dieu nous donne toutes les armes pour le gagner, ce combat. Encore faut-il se servir de ces armes avec persévérance et foi. C'est ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il exhorte ses auditeurs en disant « Luttez pour entrer par la porte étroite. » Une lutte est épuisante lorsqu'elle dure longtemps et lorsqu'on lutte avec ses propres forces. C'est bien la raison pour laquelle un chrétien doit chaque jour rechercher la présence de Dieu dans la prière et la méditation de la parole pour combattre avec les armes et les forces qu'il reçoit de Dieu. J'insiste sur chaque jour. Tout laisser aller, toute paresse, toute légèreté dans ce domaine conduisent inévitablement à la régression de la foi. L'amitié la plus forte entre les êtres ne résiste pas longtemps, vous le savez bien, à l'éloignement, à l'absence de dialogue, à l'absence d'échange, à l'absence d'attention. Il en est exactement de même dans notre relation avec Dieu. Sans que nous en ayons conscience, notre nature humaine et notre ennemi se liguent souvent pour nous faire oublier cette vérité. Soyons-en conscients. Regardons maintenant le verset 25 que je relis. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Mais Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Ce dialogue est instructif, frères et sœurs. Pourquoi ? Les gens qui frappent à la porte et qui supplie le maître de la maison de leur ouvrir? Ils sont de bonne foi. Ils pensent connaître cet homme. Et ils n'en reviennent pas de l'entendre dire qu'il ne les connaît pas. Alors ils veulent lui prouver qu'il se trompe. Ils veulent lui rafraîchir un peu la mémoire. Mais nous avons mangé et bu devant toi. C'est dans le texte. Et tu as enseigné dans nos rues. Frères et sœurs, ils sont toujours de bonne foi. Ils sont persuadés qu'il suffit que Jésus les ait vus attablés en train de manger et de boire, ou qu'il les ait vus assister à ses enseignements pour que ce maître puisse dire qu'il les connaît. De quelle connaissance parle-t-il? D'une simple connaissance de voisinage. Voisin de palier, on dirait aujourd'hui. Et pourtant, cette connaissance de voisinage suffit pour qu'ils disent qu'ils connaissent Jésus. Mais ce n'est pas la connaissance dont Jésus parle. Être vu en train de manger ne veut pas dire partager un repas avec Jésus. Être vu en train d'assister à l'enseignement de Jésus ne veut pas dire qu'ils l'ont accepté, cet enseignement, et que leur vie en a été changée. Il en est de même pour nous et nos contemporains. Être vu au culte ou à la messe, être présent aux fêtes de l'Église, participer financièrement à sa vie, à la vie de la communauté, ne veut pas forcément dire que nous sommes disciples de Christ, c'est-à-dire que nous nous engageons à son service, que notre vie tout entière et nos pensées sont tournées vers Jésus et appartiennent à Jésus. Félicitez le pasteur à l'issue du culte pour sa belle prédication ne veut pas dire qu'on va mettre en pratique ce qu'il a dit de la part de Dieu. Frères et sœurs, c'est grave de faire preuve de légèreté dans notre relation avec le Seigneur. C'est grave de ne pas comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il parle de le connaître. C'est terrible d'imaginer que nous connaissons Jésus, d'imaginer que nous sommes chrétiens et de penser qu'un jour nous pourrions l'entendre nous dire « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Oui, c'est grave. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dit la vérité. Notre salut ne dépend pas de ce que nous pensons. Il dépend de ce que Dieu a décrété. Je veux répéter ce que j'ai dit plus haut dans ce texte. Jésus décrit une situation hypothétique, une projection éventuelle dans l'avenir. Mais, bien qu'elle soit hypothétique, cette situation décrit une réalité très répandue dans le monde chrétien. En effet, nombreux sont ceux qui confondent religion et foi. Ici, Jésus ne condamne pas, il prévient, il met en garde. La porte étroite ne sera définitivement fermée que pour ceux qui restent sourds aux appels réitérés à se convertir que Jésus adresse à tous les hommes, sans en oublier aucun. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur cite par trois fois un verset du psaume 95. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3. Frères et sœurs, la voix de Jésus, elle a retenti ce matin dans le texte que nous avons lu. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus, mais qui prennent à cœur ces avertissements, la porte s'ouvrira. Quel que soit l'âge auquel on donne sa vie, et même après une vie de patachon. Souvenez-vous de la vie du jeune fils, de la parabole du fils prodigue, Luc 15. Vous vous en souvenez de cette parabole ? Jésus n'est pas venu sur notre terre pour juger et condamner les hommes. Il a donné sa vie pour les sauver. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 13, 3, 17. pour que les hommes soient sauvés. Mais tout de suite après, Jésus ajoute, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est le verset suivant, c'est-à-dire le verset 18. Comprenons que le verbe « croire » n'a pas la même signification quand on dit « je crois au Père Noël » et « je crois en Jésus ». Croire en Jésus englobe et engage la totalité de sa vie, la totalité de ses actes, la totalité de ses pensées. Croire en Jésus, c'est lui faire confiance, c'est lui appartenir, c'est vouloir le suivre, c'est vouloir l'honorer, c'est vouloir faire sa volonté, c'est vouloir lui consacrer sa vie. Pas besoin d'être pape, pasteur, prêtre ou missionnaire pour consacrer sa vie à Dieu. La consécration qui entraîne tout le reste, c'est celle d'un cœur habité par le Saint-Esprit et prêt à lui obéir à ce Saint-Esprit, à ce qu'il nous dit. L'apôtre Paul a écrit « Vous êtes sauvés par grâce » Éphésiens 2, verset 8. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté tout de suite « Par le moyen de la foi ». Pas par le moyen de la religion. Jésus n'a que faire de la religion qui consiste au simple respect des lois et pratiques religieuses. Ce que Jésus attend de tout homme, ce pourquoi il a donné sa vie, c'est la consécration totale de notre cœur à sa personne. La consécration totale de notre cœur à sa personne. Seigneur, il y a les mots. Soit les mots que tu as prononcés toi-même, soit les mots que un serviteur prononce, et puis il y a l'usage qu'on en fait. Oh, s'il te plaît, Seigneur, que nos oreilles spirituelles aient écouté ce matin, et que nous puissions vraiment venir à toi. Venir à toi, Seigneur, pas penser qu'on te connaît, mais qu'on te connaît vraiment, parce qu'on a laissé le Saint-Esprit faire tout ce travail de transformation de notre être, de notre vieille nature, pour devenir la nouvelle nature en toi, Seigneur.